Mathias, est-ce que tu peux nous rappeler la nouvelle, cette arrestation de Ryan Wedding? Qui est cet homme?
Oui, c'est un narcotrafiquant canadien, en fait, qui était sur la liste des personnes les plus recherchées, des criminels les plus recherchés par le FBI. On disait souvent que c'était le Pablo Escobar du Canada.
Ouais, là,
c'est un grand criminel. Là. Le FBI offrait une récompense de 15 millions de dollars pour toute information qui mènerait à son arrestation. Finalement, il a été arrêté. Il y a présentement un acte d'accusation qui a été déposé contre lui. Le plus gros point sur cet acte d'accusation-là, c'est qu'il est notamment accusé d'avoir orchestré le meurtre d'un témoin fédéral dans une affaire de stupéfiants en 2024. Il y a d'autres suspections. Il est soupçonné d'avoir ordonné le meurtre de plusieurs autres personnes. Pour l'instant, il n'y a pas nécessairement d'accusation sur ça. Mais c'est un dossier qu'on suit de près depuis quelques mois parce que c'est un grand criminel, un criminel canadien, un ancien Olympien canadien qui est recherché autant par le FBI. C'est sûr, ça fait jaser.
Et pour en parler avec nous, on a l'ex-enquêteur au SPVQ, Service de police de la Ville de Québec, et enseignant en technique policière au Cégep Garneau, Roger Ferland, au bout du fil. Roger, comment vas-tu, mon ami?
Très bien, bonjour à vous.
Roger, merci beaucoup de te rendre disponible pour nous. Est-ce que c'est une des plus grandes arrestations de l'histoire du crime canadien?
Je ne saurais pas dire jusque-là, mais c'est un dossier très important parce que c'est un gars qui était charnière au niveau de l'importation d'un premier temps avec le cartel mexicain. Le cartel mexicain est à peu près une des plus grosses routes, je vous dirais, qu'en ce moment, on peut avoir au Canada. Fait qu'ayant un joueur comme lui, puis ce qui est important, c'est que c'est un gars qui avait une double vie. C'est un gars qui avait une vie sociale interlope importante, puis c'est un gars qui, de l'autre côté, était un solide trafiquant, mais en plus, qui était responsable d'une équipe des tueurs à gage que ces gars-là ont. C'est un gars qui était dangereux et drôlement efficace. Fait que c'est assurément un gros joueur, parce que c'est un dossier. T'sais, quand je regarde le dossier de Frédéric Silva qui s'en vient, c'est quand même important. C'est un tueur qui a fait parler de... il va parler d'une soixantaine de meurtres. C'est énorme aussi. Tandis que là, lui, un gars comme lui arrêté, c'est actuellement un des gars qui était, une pièce centrale, du moins, d'un très gros réseau de trafic et de tueurs à gages.
Oui, c'est ça. C'est le tueur à gages, moi, qui me donne les frissons. Donc, là, Ryan Wedding, avec, 15, 20, 25, là, on connaît pas le nombre, tueur à gages qui faisait les jobs pour lui puis qui lui permettait, justement, de contrôler ce réseau-là?
C'est ce qu'on comprend un peu. Voyez-vous, quand on fait du trafic de stupéfiants, ce qui est pas le fun, faut que tu fasses ta distribution, faut que tu fasses ta collecte d'argent, mais faut aussi que tu continues à fidéliser les gens envers toi.
Mm-hmm.
Puis dans ce volet-là, tu as tout un volet intimidation qui est à faire. C'est pour ça que nous, on a souvent vécu avec le monde des Hells Angels, où est-ce que il y avait un logo terrifiant et j'en passe, et des techniques qui ont utilisé. Là, ces derniers mois, on a vu d'autres gangs s'y prendre. Mais les Mexicains ont toujours montré qu'ils étaient impitoyables depuis des années. Et voyez-vous, là, ça, c'est un gars, c'est un Canadien qui travaille pour eux depuis des années, mais qui devenait l'outil final d'intimidation et qui s'organisait pour tuer des gens ou faire tuer des gens à partir de personnes. Alors, puis tout ce volet-là, le volet mexicain, comprenons-nous, là, et ces gens-là ne s'identifient pas de la même façon que certains membres du crime organisé qui aiment porter des vestes et des tatous. Ils sont beaucoup plus discrets dans leur organisation et ils essayent de faire un peu la double vie. Alors, trouver des tueurs qui vont accepter d'aller tuer. Ouais, tu vas tuer ce gars-là, c'est quoi de la rue? Ouais, mais c'est qui? Mais non, ce gars-là, c'est un important importateur. C'est un gars qui est lié avec un autre. L'autre, c'est le gars qui a un rhum d'argent. L'autre, c'est le gars qui nous a trahi dans tel dossier. C'est toutes ces choses-là qui ont à faire. Fait que c'est vraiment du travail à, je vous dirais, j'ai envie de dire deuxième et troisième niveau, là. On n'est pas au niveau de la rue des patrouilleurs. On n'est même pas au niveau premier des enquêtes. On est vraiment au niveau du trafic international. Puis des informations à ce niveau-là international de gens qui jouissent d'une crédibilité, mais qui en abusent beaucoup en faisant ce qu'ils font là.
Puis justement, en prenant en compte tout ce travail-là qui doit être orchestré pour arrêter une personne de ce genre-là, puis entre guillemets, démanteler ce réseau-là, comment que ça s'observe un peu la collaboration entre, par exemple, parce que là, c'est un Canadien qui est au Mexique, que les États-Unis ont sur leur liste des recherchés. Comment ça se passe la collaboration entre les trois pays?
Ben, on a dans chacun des pays, en fait, il y a des collaborateurs canadiens qu'on a là-bas on appelle ça des LO pour nous autres, là, des officiers locaux, en fait, qui est un point charnière. Ça ne veut pas dire qu'il sait tout, mais ça veut dire qu'il est capable d'un policier, par exemple, de la GRC, généralement, qui est là-bas installé, au Mexique. Mais on a la même chose côté des États-Unis, quoique la collaboration va assez vite aux États-Unis. Mais il y a quelqu'un là-bas qui collabore. Alors, on passe par ces points charnières-là, et à partir de là, s'installe souvent ce que j'appelle la mentalité du need to know. On va te transférer l'information que tu as besoin et que tu as le droit de savoir. Mais on ne t'en donne pas généralement plus que ce que tu as besoin. Mais tu es obligé de collaborer parce que ça te prend des collaborateurs de sur place parce que c'est très difficile de vous garantir que tu ne parles pas avec un policier corrompu quand tu es en Colombie, au Mexique ou dans ces pays-là. Ça te prend des gens vraiment qui ont montré qu'ils avaient une fidélité et qui étaient fidèles à l'organisation. Fait que là-bas, sur place, on confie à ces gars-là la responsabilité de savoir à qui ils vont le dire et comment ils vont le faire. Mais de fil en aiguille, une personne comme M. Redding devenait sûrement une patate chaude pour le Mexique, parce que plus que l'information sortait, quand c'est rendu public, c'est un individu qui devient personnel non grata. Et il va attirer l'attention sur lui et la chaleur. Alors, il n'est même pas dit que ce n'est pas des gens du Mexique qui ne l'ont pas dénoncé, ou ailleurs, dépendamment où ce qu'ils l'ont retracé. Là. Mais souvent, tu as des collaborateurs locaux qui disent « Non, t'as un peu ce gars-là, il attire trop de chaleur. » On le conserve ou on s'en débarrasse. Et le système là-dessus est très, très ingrat, très rapidement.
Pour rappel, on parle avec Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, de l'arrestation de Ryan Wedding, cet ancien athlète olympique canadien, qualifié récemment par le directeur du FBI de Pablo Escobar des temps modernes. Roger, pourquoi il va être jugé aux États-Unis et non au Canada s'il exportait de la drogue dans les deux pays?
Ça va dépendre encore là du dossier primaire qui origine pour lui, en fait. Fait que sûrement que les États-Unis avaient déjà des dossiers d'importation, parce qu'on sait que le Mexique a utilisé beaucoup de routes par des camions ou d'autres façons aériennes qui passaient justement par les États-Unis. Au fil du temps, beaucoup d'informations leur parviennent. Alors, c'est eux qui avaient assurément initié l'enquête. Peu importe, même si le gars avait un rôle international qui dispatchait du monde un peu partout, on a vu dans plein d'autres pays, pour rechercher, par exemple, quand il voulait rechercher pour faire tuer quelqu'un, ben c'est celui qui a initié le dossier. Fait que, comme nous autres, par exemple, c'est pas du même calibre, mais que le Pic-sur-Mel va être rapatrié ici un jour,
ouais.
Ben lui, ses crimes ont été commis là-bas. Ceux qui ont enquêté au début, puis qui ont dit, regarde, Canada, le connaissez-vous? Mexique, connaissez-vous? Tel autre pays, connaissez-vous? Oui. C'est eux qui étaient le point central, simplement. Ça en prend un, mais principalement, ses crimes reprochés les plus importants doivent être aux États-Unis.
En terminant, Roger, sort à la série Netflix sur sa vie, qu'on apprenne comment un athlète olympique a fait pour devenir le Pablo Escobar canadien?
Ben, ça peut être relativement intéressant, tout à fait, oui, de voir ça. De voir à quel point, à un moment donné, ces gens-là vivent de grands moments, de grandes opportunités, mais à cause de ça, vont souvent chercher les zones d'ombre au lieu de rester dans les zones de lumière.
Ouais.
C'est référence à Star Wars un petit peu, mais c'est vraiment ça, à un moment donné. Tu peux toujours choisir ce que tu veux, puis dans ces moments-là, c'est le fun de voir comment ça que ces gens-là, ça bascule dans leur tête, qu'est-ce qui se produit. C'est peut-être pas nécessairement des mauvaises personnes, mais qui font constamment des choix. Eux, on leur offre souvent de plus grands choix ou plus grandes opportunités. Vont-ils être aussi sages?
Ouais.
Je ne sais pas, mais c'est toujours le fun de découvrir comment est-ce qu'ils en viennent à avoir des pensées criminelles à ce point-là.
Ça m'amène une dernière question. Est-ce que, justement, de comprendre la logique psychologique derrière ce changement de cap-là d'un individu comme Ryan Wedding peut vous aider dans des enquêtes futures?
Ça nous aide dans des enquêtes futures, mais ça nous aide aussi, j'ai envie de dire, beaucoup plus, Jeff, en prévention.
Okay.
Travailler en ce moment pour comprendre à quel moment quelqu'un, ça bascule dans sa tête, à quel moment ça se fait. Puis je peux te dire, moi, au fil de mes années, j'ai eu plusieurs collaborateurs qui étaient des criminels, mais qui te donnaient de l'information, il faut qu'ils t'en donnent. Mais ça me permet de comprendre, Colin, je pense qu'il y a des moments où il faut que tu tutorises un petit peu, là. Tu sais, mettre un tuteur à côté de nos enfants quand ils grandissent, surtout quand ils ont de grandes opportunités. Combien on a vu de grands athlètes sportifs, des fois, l'échapper, déraper? Ben oui, ils ont de l'argent dans leur poche. Pourquoi ils n'essaieraient pas sex, drug and rock and roll, comme on disait dans le temps, là? les opportunités sont là plus grandes pour eux. Mais ça demande beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité à côté pour être capable de le faire. C'est pour ça que quand on comprend des fois à un moment donné quelles sont les opportunités qui leur sont offertes, on est capable de peut-être un peu mieux travailler et prévenir un peu ces actions-là dans le futur pour nos jeunes, parce que c'est beau de voir qu'on les idéalise sur le podium, mais des fois, on n'a pas idée par quel chemin ils ont passé pour se rendre là.
En effet. Roger Ferland, merci beaucoup pour ton extraordinaire contribution à l'émission d'En Jase, et on se reparle prochainement.
Bonne journée à vous. Bonne fin de semaine, gang.
Salut Roger. Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, également enseignant technique policière au Cégep Garneau. On revenait sur l'arrestation de Ryan Wedding, ex-athlète olympique, décrit par le FBI américain comme le Pablo Escobar canadien. C'est une énorme prise qui a été faite en collaboration. C'est les policiers au Mexique, le FBI et la GRC qui ont permis cette arrestation.
D'ailleurs, c'est fou raide de dire on peut regarder la vie d'un individu, puis à un moment dans sa vie, cet individu-là était au top des tops dans, oui, dans un sport olympique.
En snowboard.
Était un athlète incroyable. Puis à un autre point dans sa vie, c'était surnommé le Pablo Escobar des temps modernes. C'était un narcotrafiquant de grande envergure, ouais, en Amérique du Nord. C'est fou pareil.
C'est très fou, ça ne fait pas de sens, mais c'est une histoire réelle et non pas une histoire de fiction. Parlant d'histoire réelle, Mathias, après la pause, on parle avec Alex Laramée, journaliste au 99.5. On va se faire une belle chronique sportive, yes, parce que dans le réel, il y a eu une défaite du Canadien 4-2 hier contre les Sabres. Il y a un match samedi soir contre les Bruins et il y a surtout deux matchs très importants qui mènent les équipes au Super Bowl dans la NFL, c'est-à-dire les Patriots de la Nouvelle-Angleterre vont affronter les Broncos à Denver. Et les Rams de Los Angeles vont rendre visite aux Seahawks à Seattle. Donc, restez avec nous. On parle de ceci immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 101. On en jase.